Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Et oui, Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois. Vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec son président Hervé Delouche, qui est aujourd'hui avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Bonjour Guy,
voilà,
bonjour à tous.
La liaison est parfaite, et nous t'entendons bien, Hervé. Alors, au sommaire aujourd'hui, un regard sur le polar, sur le noir hexagonal français. Peut-être une manière, Hervé, de nous préparer à des sorties anglo-saxonnes, anglaises, américaines, importantes du mois de mars. Effectivement, et si je respecte la chronologie, le 13 mars va arriver en librairie la très attendue suite de La Religion de Tim Willox. Ça s'appelle 12 enfants de Paris. C'est aux éditions Sonatine. Et puis, le 26 mars, et c'est sans doute l'événement au niveau de la littérature noire de l'année, c'est la sortie en librairie, Hervé,
D'un livre de James Ellroy,
voilà,
qui par ailleurs va venir en France et va être pour la première fois, pour les 10 ans du très fréquenté festival Quai du Polar de Lyon. Voilà, et donc il y a un livre de James Ellroy qui sort à cette occasion.
Ça s'appelle, je pense, Extorsion.
Ça s'appelle Extorsion, voilà. Absolument. Et
c'est en rivage, comme d'habitude.
C'est une novella, c'est-à-dire un court roman d'Ellroy qui est suivi de plusieurs chapitres de son gros roman à venir, après le gros roman très politique qu'avait été Underworld USA.
Voilà, c'est ça. Hein. Donc, et ça, c'est pour 2015. En tout cas, donc le 26 mars 2014, Extorsion en rivage thriller de James Ellroy. Alors, nous en reparlerons sans doute, Hervé, de ces deux ouvrages. Mais aujourd'hui,
Je pense que oui, si tu en es d'accord.
Oui, hein, voilà. Mais aujourd'hui, direction le polar français qui semble bien se porter, avec trois auteurs et trois romans donc que nous avons retenus pour plusieurs raisons. Tout d'abord, bon, ils tracent petit à petit leur chemin dans ce polar français. Ensuite, ils sont tous les trois dans la première sélection du prix Amila Mecker, décerné à Arras le 1er mai, un prix qui nous réunit, Hervé.
Bien. Tout à fait, c'est très plaisant que cette année, il y ait ces trois romans, oui, de qualité.
Voilà. Alors, bien entendu, nous ne savons pas ce qu'ils deviendront, et c'est vrai que nous révélons un petit secret, mais ce n'est pas un secret d'alcool, donc on peut se le permettre.
Puisque, on peut se le permettre, voilà. Et puis on peut aussi ajouter, si tu en es d'accord,
oui,
qu'au moins deux d'entre eux, c'est-à-dire Marin Le Dain et Karim Madani, participeront en signature et en table ronde le 1er mai au salon du livre d'expression populaire
et invité,
connaissons tous bien.
Voilà, et invité par 813
et Colère du présent.
Voilà. Donc donc je disais que c'est un petit secret puisque le jury Amila Mecker ne rend public que sa deuxième liste, sa deuxième sélection, et ce sera le 12 mars. Alors peut-être y trouverons-nous donc Pur d'Antoine Chénas en série noire, et puis Kacher Nostrad, Karim Madani, donc c'est au seuil, et enfin L'homme qui a vu l'homme de Marin Le Dain édité chez Ombre Noire. Alors voilà le trio dont nous allons parler aujourd'hui. Qui dit trio dans la littérature ou le cinéma de genre dit bien entendu le bon, la brute et le truand. Alors des bons, des brutes et des truands, il y en a beaucoup dans ces trois romans, mais pour qualifier leurs auteurs, on pourrait peut-être utiliser, Hervé, la formule le pur, le speed et le témoin.
Alors c'est joliment trouvé, Guy.
Le pur, bon, ça coule de source, en plus c'est le titre de son roman, mais pour Antoine Chénas, qui avec Caryl Ferré et D.O.A. représentent la nouvelle garde noire de la série noire. Il y a, oui. Il y a quelque chose de pur chez Nas, peut-être une question de style. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, je pense qu'il y a quelque chose de pur. Alors moi, je l'ai beaucoup ressenti dans ce roman-là, qui, à mon avis, est plus épuré, justement, pour rester dans l'idée que Versus, par exemple, qui avait des accents, enfin bon, c'est une formule un peu convenue, mais un peu célinien parfois, des choses comme ça. Voilà, bon, moi, je pense qu'effectivement, ce roman-là tend assez à une épure stylistique, avec, cela dit, parfois des qui n'excluent pas quelques jolies préciosités. Mais voilà, mais l'idée de pureté, on peut aussi la décliner parce que on peut la décliner sur le livre lui-même. Je sais pas, tu dis un mot sur l'histoire et puis.
Bah, écoute, donc l'histoire de ce roman, le point de départ, c'est l'histoire d'une résidence surveillée, enfin un lieu fantasmé par les pros du sécuritaire. On découvre un endroit, je cite rapidement un extrait. La double limite séparative en panneau rigide de 3 mètres de haut était hérissée de barbelés de fils électriques. La surface de 115 hectares et 37 hares, dont plus de la moitié était boisée d'eucalyptus, de palmiers et d'essence rare, était quadrillée par les guérites, les détecteurs de mouvement, les sas de sécurité, 12 gardiens assermentés se relayaient 24 heures sur 24, le poste barrière principal était relié au poste secondaire à l'intérieur, eux-mêmes connectés par tableau électronique à chaque habitation, des patrouilles sans circuit ni horaire fixe étaient organisées sur les 30 km de route, les contrôles inopinés rendaient badge individuel obligatoire. Voilà, bon, c'est un court extrait, mais ça... Alors, quand on dit ça comme ça, on peut avoir l'impression d'être dans une prison, hein, mais ce n'est pas le cas, hein, c'est bien.
Une prison dorée, mais...
Voilà, c'est une résidence, hein, ce sont des gens qui se retrouvent dans ces lieux ben, pour se préserver des dangers de la ville et de la misère qui règne dans la ville. Alors c'est un petit peu de la sociale fiction, mais néanmoins on n'en est pas loin chez nous.
On n'en est pas loin, alors il y a l'idée effectivement de pureté, parce que dans l'idée de pureté il y a l'idée d'absence de mélange, d'absence d'éviter toute dégradation due à un métissage, quel que soit le métissage racial, social, ce qu'on veut, enfin ce qui là est le cas. On n'en est pas loin, et même je crois même qu'on y est presque. Par exemple, aux États-Unis, la ville qui un temps fut le rêve avec Hollywood et tout cela, le symbole du rêve américain, est devenue depuis les années 90 une ville d'apartheid spatial. Et donc effectivement, ce cauchemar Antoine Chénas. Nous le transporte ici avec parce que ces résidences ultra très chères et très privées et très sécurisées existent évidemment pas au point où Chénas pousse à l'extrême comme le font souvent les auteurs du noir, mais on n'en est pas loin. Je sais que des résidences de ce type existent dans la région PACA, par exemple. Ou même si aucune ville n'est citée, semble se dérouler le pur d'Antoine Chénas, qu'il connaît bien.
Tout à fait. Et donc tu évoques, hein, Hervé, le roman noir. C'est vrai que j'ai parlé de polar, de roman noir, mais ici on est vraiment dans un roman noir. D'ailleurs, les trois romans, hein, que nous avons retenus aujourd'hui sont des romans noirs dans le sens où ils s'inscrivent dans le sillage de ceux qui ont pu marquer les esprits par leur mise en lumière des dysfonctionnements des sociétés qu'ils exploraient.
On est
complètement. Alors c'est un roman. On le dit, il y a une histoire, il y a des personnages. Bon, ici en l'occurrence, il y a aussi un flic. Il y a ces personnes donc.
Une espèce d'énorme flic qui serait un peu si j'ose dire, le meilleur de tous, mais qui en même temps. J'allais dire, on ne peut pas dire que les personnages d'Antoine Chénas provoquent une empathie forte, mais qui en tout cas est celui qui va aller le plus loin pour essayer de comprendre ce qui se passe. On a on a des flics effectivement, on a une jeune fliquette très arriviste et qui marche dans des affaires de corruption municipale. Mais oui, après, comme on dit, un louant de l'autre et tout, tout ça va être. On est. Et puis il y a celui qui va. Il y a Patrick Martin qui, au début du livre, est victime d'un accident sur l'autoroute où sa femme décède et qui va être un peu le porteur du livre, le porteur d'une manipulation. Où on se demande qui manipule qui, et qui lui-même est quelqu'un qui est, je crois que, qui fait passer les tests à des gens argentés pour pouvoir accéder voilà. À des résidences privées ultra sécurisées.
Tout à fait. Voilà, donc, Pur, d'Antoine Chénas, Hervé, en série noire. Alors, tu as évoqué d'autres romans hein, d'Antoine Chénas qui s'installent vraiment dans la série noire. Tu as évoqué... Oui. Versus, il y a aussi il y a un titre avec Radioactif, mais je n'ai plus le titre précis en tête. Amour Radioactif, c'est parce que ça te tient.
Attends, je suis en train de fouiller ma mémoire. Oh là 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 là. Ce serait pas une histoire d'amour qui pourrait être radioactive ?
Ouais, voilà, c'est ça. Hein, c'est... mais simplement pour dire, je sais pas quel est ton avis. Donc moi, j'ai lu aussi les précédents. Et c'est vrai qu'Antoine Chénas, dans le roman noir français, on l'a évoqué au début, c'est un souffle un peu d'air pur avec quelque chose de différent. Ici, on le retrouve sur un terrain plus classique, finalement, du roman noir.
Oui, alors là-dessus, moi j'ai beaucoup aimé ce roman. Voilà, par exemple, Versus, j'étais convaincu que c'était un livre important, et je pense depuis un moment que Chénas est un auteur tout à fait important, et en même temps, j'avais un peu plus de mal malgré tout. Voilà, peut-être que ce classicisme plus épuré m'a davantage convenu, mais voilà, mais je pense que tu n'es pas forcément d'accord.
Non, mais c'est normal aussi. Hein, c'est...
Ah bah évidemment. Non, heureusement. Mais,
voilà. Moi, je m'attendais à quelque chose de d'un peu plus dans la ligne de ses précédents romans, vraiment qui très très originaux, quoi. Aussi sur les thèmes, les questions abordées. Mais bon, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Et d'ailleurs, si on en parle, hein, c'est bien.
Vu ce qu'on vient de dire, il n'y en a pas.
Voilà, c'est bien que.
Et par ailleurs, c'est ça qui est amusant, c'est qu'évidemment c'est un roman tout à fait noir qui est légèrement futuriste, mais en même temps, il joue aussi avec des codes qui sont ceux d'une certaine littérature policière, puisqu'il y a aussi une histoire de lieu clos, parce que qui plus est, le dérèglement de la machine va venir de l'intérieur de la machine, et notamment avec le rôle très important d'un jeune garçon.
Tout à fait. On n'en dit pas plus.
La résidence et on n'en dira pas plus.
Alors, si tu le permets, Hervé, nous allons passer de Pur, d'Antoine Chénas, à L'Herbe Pure, peut-être, non
donc, La Weed.
Voilà, Cacher Nostra de Karim Madani. Donc là, c'est au seuil. Alors, petite particularité, signalons-le, Karim Madani s'est quand même fait connaître à la série noire avec.
Le jour du fléau.
Donc il a quitté la série noire. Hein. Peut-être que tu as des explications sur ce transfert. Mais en tout cas, donc là cette fois il publie. Alors on va pas dire que c'est une suite. Oui, on va pas dire que c'est une suite, mais on retrouve quand même la ville hein, qu'il a inventée, Arkestra.
Voilà. Moi, il y a quelque chose là aussi. On est sur les traces d'une certaine littérature policière tout en s'en dégageant, puisque il y avait un exemple, il y a eu un auteur américain très connu qui s'appelait Ed McBain, qui avait créé une ville qui s'appelait Isola, le 96, qui mettait en scène le commissariat, les flics du 87e district, qui est en gros à l'origine de tout un genre, soi et de toutes les séries américaines d'ailleurs qui se posent, américaines et même françaises hein, d'ailleurs, qui se déroulent avec plus ou moins de bonheur dans des équipes de, avec des équipes de flics de commissariat. Alors Karim Madani, oui, il a cette très grande originalité quand même de d'être l'héritier de ça, d'être un gros lecteur de romans noirs américains et également un gros, il a beaucoup vu de films noirs aussi. Le Jour du Fléau était plus référentiel, mais là il est dégagé de ça, il crée donc cette ville Orchestra, qui est une ville, comme tu disais tout à l'heure, une ville fantasmée, qui se nourrit de certains aspects urbanistiques, sociologiques de métropole américaine ou française, parce qu'on ne sait pas exactement où est Orchestra, même si on a quelques indices, en tout cas, oui, d'un mix de différentes choses. Et c'est une ville, cette ville, c'est une sorte de Gotham City contemporaine qui semble, qui concentre un peu tous les maux urbains, où il y a des gangs, de la dope, de la corruption. C'est une ville où il n'y a pas beaucoup d'espoir, et où les gens, là on était dans une prison dorée avec Chénas, là où les gens à Orchestra restent prisonniers, mais la prison n'est pas dorée du tout quand même, hein, sauf exception.
Et on a aussi cette particularité de ville complètement segmentée, avec des quartiers ghetto, plein de misère, et des quartiers des quartiers préservés.
Tout à fait. Et là on est enfin, et là justement on est dans un quartier que Le Jour du Fléau n'évoquait pas, ou alors au passage, mais là où est située une grosse partie des scènes du roman, qui s'appelle Anoukaville et qu'on n'avait pas vraiment visité, avec un jeune héros, enfin héros si on peut dire, hein, mais enfin personnage principal, Maxime Goldenberg.
C'est un quartier juif.
C'est un quartier juif, et Maxime Goldenberg est le fils d'un membre de Kasher Nostra, justement, qui donne son nom au livre, qui était la mafia de ce quartier.
Jolie formule, Kasher Nostra.
Oui, hein, jolie formule. Karim Madani a de toute façon un style bien à lui, et le sens de la formule, de même que Chénas a une voix particulière, je pense qu'on peut dire que Karim Madani est également, très différemment, mais une voix.
Tout à fait. C'est pour ça que je disais le speed, hein, parce que il a quand même un style très particulier, et c'est à la fois, bon, en résonance avec ce style, et d'ailleurs, hein, je ne sais pas si Karim Madani vise l'Académie française, mais ce qui est sûr, c'est qu'il fait chauffer le dictionnaire, hein, il a quand même des phrases où il accumule des mots, des mots qu'on ne connaît pas, hein, qui ne sont pas dans le langage de tous les jours.
Ils ne sont pas dans le langage de tous les jours.
Parfois, pour le suivre, il faut ouvrir le dictionnaire. Et puis ça, c'est vraiment, c'est un peu une mitraillette, quoi. Puis bon,
il y a un côté machine gun, machine gun Karim, ça c'est sûr. Et il y a, je crois, il transporte dans une histoire qui est par ailleurs serrée et qui se tient totalement, une espèce de... Il y a un côté, Karim Madani, il a été journaliste de culture hip-hop, il est allé aux États-Unis, c'est aussi un très grand connaisseur de jazz, voilà. Et il y a un côté à la fois entre le, il peut y avoir parfois un côté bluesy, mais il y a un côté aussi slam, enfin un côté la phrase, ce qui n'empêche pas du tout, je le répète, la chose d'être tiré au cordeau également. Voilà, alors, peut-être on dit quelques mots sur ce que fait, Maxime Goldenberg.
Là encore, hein, bon, le speed est là quelque part, puisque il lui tombe du ciel à ce jeune homme, alors je cite, une hydroponique qui venait du nord, pas n'importe quelle herbe, l'hybride qui débride, le taux de THC était à faire danser une tétraplégique incomplète avec un partenaire unijambiste. Voilà, hein, donc, c'est pour ça que je parlais d'herbe pure, effectivement, et c'est le point de départ d'un parcours assez tumultueux, hein, autour de cette herbe, mais dans cette ville d'une manière plus générale.
Oui, parce que dans une ville qui est plutôt totalement folle, ce jeune garçon, il vit avec sa mère, et elle est en train de devenir folle voilà, enfin, et il sait que l'aide sociale va la placer de force dans un dans une espèce de mouroir, et il veut empêcher ça. C'est un bon fils, et donc lui qui est coursier se dit que voilà, il lui tombe, comme tu dis, une affaire, et il va rentrer dans des détournements et évidemment dans quelque chose de beaucoup trop gros pour lui.
Voilà. Alors
et
on
puis
en dit...
ça va évidemment pas très bien se passer. Tout
ça. On n'en dit pas plus non plus.
Donc... Il y a un très beau personnage aussi quand même qu'il faut évoquer, que moi je trouve superbe, c'est Skeet, cette jeune
oui,
ado
qui fait penser,
qui traverse le livre telle une funambule et qui voilà. Et qui bombe sur les qui fait des fresques à la mémoire de ceux qui sont tombés à Arkestra.
Voilà, c'est ça qui fait penser peut-être à un mystique. Hein, là.
Oui, il voilà. Y a quelque chose de ça, une mystique restée sauvage. Oui,
et
tout
aussi
à fait.
Une bande son Sunra. Hein,
oui, il y a effet. Absolument, tout à fait.
Donc,
tout à fait.
Tout au long du. Alors dernière, je pensais faire une petite pause musicale, mais on va enchaîner, Hervé, parce qu'on a tellement de choses à dire sur sur ces trois
ça
livres.
Je trouve que c'est des livres vraiment intéressants.
Ouais, ouais, ouais. Hein, donc
le polar français va bien.
Voilà. Donc voilà. Le troisième titre dont nous avons souhaité vous parler aujourd'hui, ça s'appelle L'homme qui a vu l'homme. C'est Marin Le Dain aux éditions Ombre Noire. Alors Hervé, je sais que ce bouquin, pour plusieurs raisons, t'a beaucoup touché. Alors je te laisse le présenter.
Écoute, voilà, Marin Le Dain, bon, c'est un auteur qui a déjà un certain nombre de livres derrière lui, qu'on suit de près. Il a eu le trophée 813 pour Les Visages Écrasés, c'était il y a deux romans de ça, donc. Voilà, avec L'homme qui a vu l'homme, alors là, on n'est pas du tout dans du fantasmé, que ce soit la cité privée dorée sécurisée de Chénas, ou que ce soit la ville de tous les maux qu'est Arkestra chez Madani.
Un témoignage, on peut dire.
Voilà, d'où le fait que et le témoin.
Voilà.
Voilà. C'est-à-dire qu'on est au pays, le livre se passe au Pays Basque, au Pays Basque Nord ou au Pays Basque Sud, comme l'on dit, voilà. Et
pour les Espagnols, c'est le Pays Basque Nord, et pour nous, c'est le Sud, quoi. C'est ça que tu veux dire. C'est le Pays Basque français, en fin de compte. En France.
Le Pays Basque français, c'est le Nord. Le Pays Basque Sud, c'est l'Espagne. Sauf pour les gens de Scadi. Voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il s'agit de la
c'est inspiré d'un fait réel,
pas comme un thriller, voilà, on a une aire d'autoroute, on a des gars, un type qui a été enlevé, et ça commence effectivement comme ça très 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 rapide, très saccadé, et c'est inspiré d'une histoire vraie qui est la disparition d'un militant basque, Jon Hamza. On va avoir un livre à la recherche de Joaquin Sasko, qui est le personnage qui est enlevé au départ, qui disparaît, et dont la disparition, on ne le retrouve pas, dure 327 jours.
Alors moi j'ai compté. Excuse-moi Hervé, hein, moi j'ai compté et je trouve pas 327 jours. Mais bon, on en reparlera, hein, parce que pour moi ça commence le 3.
Je me suis trompé.
Non, tu t'es pas trompé. Hein, ça commence le 3 janvier 2009 et ça se termine le 29 décembre 2009. Enfin bon.
Je dois avoir des jours en.
Non, c'est pas toi qui t'es trompé, parce que tu te réfères à une interview, mais c'est peut-être moi qui dis n'importe quoi.
C'est Marin qui a écrit, voilà. Peut-être est-ce Marin qui s'est trompé.
Je ne sais pas.
Mais enfin, voilà, il va y avoir, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que cette disparition, qu'est devenu Joaquin Sasco, des fresques commencent à jaillir sur les murs de Bayonne, etc. On sait que la guerre sale de l'époque des Galles n'est pas terminée, en fait, que des collaborations de l'ombre entre services français et État espagnol existent. Voilà, qu'il y a des barbouzes encore à l'œuvre. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que Marin Le Dun, qui lui-même n'est pas basque, fait intervenir un jeune journaliste. Iban Urtiz, qui va avoir un regard de témoin, justement.
Voilà. On dit que c'est un Erdaldun en basque.
C'est un Erdaldun, c'est-à-dire que...
Il ne parle pas le basque.
Voilà, il ne parle pas la langue. Il se trouve qu'il a un père qui était basque, mais enfin, il n'a entretenu aucun lien ni avec la langue, ni avec la culture, et ni avec la mouvance nationaliste, indépendantiste, ce qu'on appelle Abertzale, il va être ému, frappé, choqué, et puis il est journaliste pour un petit journal du Pays Basque, et il va donc mener peu à peu l'enquête, rencontrer les gens, beaucoup rouler, beaucoup aller, voilà, beaucoup interroger, pour essayer de trouver l'homme qui a vu Joaquin Sasco.
Alors, on a dit que c'est un témoignage, un roman témoin de son temps, un peu selon la célèbre formule de Manchette, mais c'est avant tout un roman, disons-le.
C'est avant tout un roman, absolument.
Et alors, tu as évoqué un mot, là, justement, moi j'y pensais aussi, c'est édité à Ombre Noire, et je trouve que Ombre Noire, ça colle vraiment complètement à ce roman. Déjà par rapport au titre, L'homme qui a vu l'homme, et puis comme tu le disais, toutes ces opérations qui se font dans l'ombre, des opérations pourtant d'État, police, justice, qui se font dans l'ombre et en dehors, bien entendu, de toutes les lois.
Voilà, c'est-à-dire qu'on est exactement dans ça, dans le côté d'aller décortiquer, d'aller chercher ce qui se trame entre les affaires, la politique, le crime. Et par ailleurs, ce qui est, à mon avis, sans dévoiler, parce que le livre a de nombreux rebondissements, à travers cette enquête journalistique que mène Iban Urtiz, mais c'est que de toute façon, de l'ombre restera. Parce que comment Iban Urtiz pourrait-il soudain avoir toute la vérité ce côté d'une disparition et d'un homme qu'on recherche, c'est aussi d'ailleurs quelque chose qui l'a aussi fait écho au polar, un thème du polar également. C'est de même que des livres, des gens cherchaient un passé disparu, des gens. Mais là, l'amnésie, ça n'est pas celle d'un personnage. L'amnésie, c'est plutôt celle des médias, d'un pays entier, à part quelques gens et Iban Urtiz qui s'intéressent à la disparition de Joaquin Sasco, et derrière lui d'ailleurs qui s'intéressait à celle de Yon Hamza et d'autres. Et en cela, je pense que Marin Le Dun se situe dans la tradition de James Ellroy, quand il disait au début d'American Tabloid, l'Amérique n'a jamais été innocente. Je pense que Marin Le Dun transpose ça à la France.
Quelle jolie liaison, Hervé, avec Ellroy, dont on parlera peut-être donc dans un mois. En tout cas, merci.
Merci à toi, merci à BFM de nous accueillir.
Ce voyage dans le roman noir français, on se retrouve pour un nouveau Variation en noir fin mars, Hervé.
Et bonne lecture
d'ici là. À bientôt, Hervé.
Pareil pour toi, bientôt.
Au revoir. Salut. C'était Variation en noir dans Variation, et une émission réalisée en partenariat, en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et aujourd'hui avec Hervé Delouche, bien entendu, le président de 813. Et aujourd'hui, donc, nous avons évoqué trois romans noirs français, L'homme qui a vu l'homme de Marin Lodin, édition Ombre Noire, Pur d'Antoine Chénas en série noire, et Cacher Nostra de Karim Madani au Seuil. À bientôt. It's not my business. That ain't making my business.